chantait de bon matin quand on partait sur les chemins. À bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette.
Bonjour et bienvenue à tous sur votre émission Il est l'heure, Monseigneur. Alors cette semaine, on a une émission très chargée. Nous sommes au complet et on a trois invités en plus. Donc je vais laisser tout le monde se présenter, si vous voulez bien, commencer par Jean-Jacques. Bonjour.
Salut.
C'était Josiane.
Bonjour.
Jacqueline.
Bonjour à vous.
Marc.
Bonjour Jennifer.
Bonjour Laurence.
Bonjour Elodie.
Et bonjour Ricardo.
Cette semaine, on a comme à notre habitude un personnage mystère à découvrir. Alors je suis content parce que j'ai trouvé quelqu'un qui est né la même date anniversaire que moi. J'en avais marre de Cyril Hanouna. Voilà, j'ai trouvé un invité mystère là qui a un peu plus de peps. Il est né le 23 septembre 1925. Donc on va aller écouter une petite chanson indice. Et puis on en reparle tout de suite après. À tout de suite.
Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Elle attend engourdie sous la neige. Elle attend le retour du printemps. Ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi. La vie libre qui me plaît, la forêt. À quoi bon chercher ailleurs? Toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. Mais je rêve d'y emmener celui qui voudra me suivre. Viens avec moi si tu veux vivre au cher pays où je suis née. Ma cabane au Canada, j'y reviendrai avec toi. Nous rallumerons le feu tous les deux. Nous n'aurons pas de voisins. Parfois seul, un vieil Indien entrera dans ma cabane au Canada. Je te dirai le nom des fleurs sauvages. Je t'apprendrai le chant de la forêt. Ma cabane au Canada, autant que tu y resteras, ce sera le paradis, mon chéri. À quoi bon chercher ailleurs? Je sais bien. Dans ma cabane au Canada.
T'es ma cabane au Canada. Par Lynn Renault, évidemment vous l'aviez reconnu. Alors pourquoi c'est un indice? Tout simplement parce que un personnage mystère a été président d'honneur du droit au logement. Et voilà, ma cabane au Canada, ça me faisait penser à ça. Je vous laisse mijoter. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui a été très compétent dans plein de domaines. On en reparlera tout à l'heure. Il a été physicien, il a été philosophe, il a été essayiste, il a fait plein de choses. Et là, ça y est, je vois que Marc prend des notes. Déjà, il est dans les starting blocks. Alors, cette semaine, on est là pour recevoir effectivement une équipe du conseil départemental avec Jennifer qui est accueillante familiale sociale, c'est ça, qui accueille chez elle des personnes âgées. Et on va en dire un tout petit peu plus. C'est un métier qui est encore méconnu. Hein. Il y a combien de places d'accueil familial dans le département ?
On a 91 places d'accueil dans le département. 45 accueillants familiaux et sociaux.
Ce qui veut dire qu'il y a des familles qui reçoivent plusieurs personnes.
Oui, il y a des familles qui reçoivent jusqu'à 3 personnes maximum.
Quand vous dites 95 places, c'est uniquement pour les personnes âgées ? Ou c'est tout venant, tout accueillant ?
Non, c'est pour les personnes âgées et les personnes adultes handicapées aussi.
Et donc Jennifer, comment ça se passe à la maison ? D'ailleurs, c'est dans une maison, c'est dans un appartement, c'est où ?
Dans une maison.
D'accord. Du côté de Beaugé, on a compris. Et vous avez chez vous une personne, deux personnes ?
Là, actuellement, j'ai une personne. D'accord. Une dame Alzheimer, ouais. 85 ans.
85 ans. Bon. Et Alors moi, j'ai une question très technique, mais qui a fait la demande d'accueil familial ?
Pour cette dame-là.
Oui. Ah, le piège.
Je l'ai accueillie suite à la retraite d'une famille d'accueil.
D'accord. Donc, effectivement, il y a eu un premier accueil familial. Donc, ça veut dire que la personne était en accueil familial depuis longtemps ?
Ça faisait 3-4 ans qu'elle était chez une famille d'accueil.
Alors, moi, j'ai une question à Jennifer, du coup. Comment on devient accueillante ? D'où est partie l'idée ou la vocation ? Je ne sais pas comment nommer ça.
La mienne ou en...
La vôtre, oui.
La mienne, j'étais en maison familiale quand j'étais jeune étudiante pour faire des stages, savoir ce que je voulais faire plus tard. Et j'étais plus basée sur les enfants. Mais il a fallu que je fasse un stage auprès des personnes. Du coup, j'étais en maison de retraite où ça ne m'a pas spécialement convaincue. L'année d'après, il a fallu que je refasse un stage que je ne voulais pas faire parce que le premier n'était pas... C'était pas du tout mon truc.
Désolé.
Et du coup, je me suis laissée embarquer en fait avec une étudiante avec moi à la maison familiale dans une famille d'accueil. Du coup, j'ai fait ce stage et je ne suis jamais repartie. Je suis restée en fait, j'ai arrêté l'école, je suis restée avec la famille d'accueil et du coup, ça s'est lancé comme ça.
Essayer, c'est l'adopter.
Voilà, c'est ça.
Bon. Ça fait du bien à entendre parce qu'on a quand même l'impression que les aidants professionnels, ils sont pour beaucoup en souffrance. Et là, pour le coup, on a un rythme de vie acceptable pour tous.
Ah bah c'est, après oui, c'est différent. Mais on a le temps de s'occuper des personnes. On en a que 3, donc au max. Après, il y a des gens, ils en ont 1, 2, mais maximum, on a 3 personnes. Donc on prend le temps pour chaque personne. Après, moi, personnellement, je m'adapte à chaque personne que j'accueille.
Et puis, ces personnes se retrouvent dans une ambiance familiale parce que les accueillants et les accueillantes, souvent, il y a des enfants. Donc, ils se retrouvent comme s'ils étaient en famille. Oui. Quoi. Le terme accueil familial, vraiment...
Oui, ah bah, ils font partie de la famille, voilà. En fait. Ils sont vraiment dans... Enfin, on est ensemble dans la même maison.
Et d'ailleurs, comment se passe la cohabitation au quotidien, du coup ?
Avec le reste de la famille.
Avec le reste de la famille, du coup. Je ne sais pas si vous avez des enfants.
J'ai 2 enfants, un garçon de 10 ans et, et ma fille de 17 ans. Et après, ils sont nés... je faisais déjà ce métier-là. Donc après, pour ma part, moi, ça se passe bien, oui.
Et les troubles Alzheimer, justement, c'est quelque chose qui est contenu, qui peut s'avérer compliqué dans le quotidien, ou bien le fait d'être justement dans un environnement très familial, très familier, pour le coup, j'espère, pour elle, c'est quelque chose qui est plus simple qu'en établissement, j'imagine ?
Bah, personnellement, mon avis, oui. Je pense qu'ils sont plus au calme en famille d'accueil, entourés qu'en maison de retraite où il y a plein de personnel, plein de monde, ça change tout le temps. Et du coup, ils vont être plus énervés qu'après chez moi, je m'adapte aux personnes. Donc on prend le temps de s'occuper des gens, on va à leur rythme. Après, une Alzheimer a des horaires. Il y a certaines horaires où, arrivé le soir, ils sont énervés. Du coup, il faut s'adapter à eux. Voilà, prendre un quart d'heure, une demi-heure pour réadapter le moment pour la personne. Quand maison de retraite, ils n'ont pas spécialement le temps de faire. Et puis, s'il y a plein de personnes, ils ne vont pas faire chaque personne.
Donc, elle trouve chez vous les repères qu'elle n'aurait plus ailleurs.
Oui.
Après, je pense que oui, peut-être le cadre familial, mais je suppose quand même qu'il y aura des limites parce que il y a le côté médicalisé que vous n'avez pas à domicile et malheureusement, qui dit maladie neuroévolutive, dit forcément trouble ou que vous ne pouvez pas prendre en charge, je suppose.
Ou les soins du quotidien, tout simplement.
Ou les soins du quotidien, je ne sais pas comment ça se passe.
Après, on travaille avec les médecins traitants. S'il y a besoin de soins infirmiers, il y a des infirmiers qui viennent à domicile. Après,
le même parcours qu'à domicile.
Et à quel moment vous décidez de passer le relais? Quelles sont vos limites?
C'est le département. Qu'elle ressent que ça va moins bien. Le département nous aide. Enfin, pour ma part, je sais que le département aide à dire il va peut-être falloir trouver une autre solution.
Alors, pour le coup, le département est ressource, mais ça tombe bien, le département est là pour répondre. Donc, quelles sont effectivement les limites que vous sentez pour ne pas mettre et en difficulté la personne accueillie et la personne accueillante?
Les limites, elles s'évaluent en partenariat. Enfin, on travaille conjointement avec les accueillants, donc on peut être en lien. Ils nous sollicitent quand ils ont des doutes, quand vraiment il y a des débordements par rapport à la pathologie. On tente des choses et on fait au fur et à mesure. En fait, c'est à la fois le bien-être de la personne qui est accueillie, mais aussi l'accueillant jusqu'où il peut aller. Donc c'est vraiment, moi j'ai pas de réponse type, c'est on évalue ensemble.
Et il y a des ajustements fréquents ou globalement c'est une formule qui ne pose pas de problème?
Ça dépend des situations. C'est vraiment au coup par coup et après on commence à bien connaître les accueillants, donc c'est vrai que ils nous interpellent, on connaît leurs limites, sait. Il y a des gens où c'est plus compliqué quand la pathologie s'aggrave, quand il y a trop de gestion au quotidien, et puis ils ont aussi plusieurs accueillis, donc il faut aussi que ça s'adapte au groupe.
Excusez-moi, question. Quelles sont les relations avec les familles vraiment des personnes que vous accueillez? Parce que ça doit pas toujours être facile.
S'il y en a encore.
Parce que Josiane n'aime pas les enfants.
Non, c'est parce que cette formule existe dans le département de Maine-et-Loire depuis déjà un certain temps. Et nous, l'association Alzheimer, on a été un petit peu en contact avec les accueillants, mais avec des familles où quelquefois, ça se passe pas bien.
Ah, t'en as trop dit ou pas assez, là? Alors, toujours les limites. Aujourd'hui, quand on reçoit une personne malade qui a des volontés, j'imagine que c'est pas toujours facile de satisfaire toutes les demandes. Comment est-ce qu'au quotidien, on s'impose pour pouvoir, on va dire, contenir les exigences des uns et des autres?
Je pense qu'il y a surtout déjà la question du lien avec la famille qui est restée en suspens.
Bah après, c'est les familles qui font la demande pour les placer chez nous déjà. Après, ils vont vers le département pour avoir les adresses des familles d'accueil qui ont de la place. Et après, il y a le lien avec la famille. Moi, je sais, pour ma part, ça se passe bien. Donc après, tout dépend. Les familles d'accueil peuvent donner comme limite les horaires, par exemple, à laquelle ils acceptent que les familles viennent. Par exemple, le matin, c'est plus les toilettes, s'occuper des personnes. Et puis après, il y a peut-être des jours où les familles d'accueil sortent, font des activités ou...
Et pour en avoir parlé un petit peu déjà ensemble, c'est vrai que l'introduction dans une famille accueillante, ça se fait quand même doucement. Et c'est un plan qui ne doit pas se faire dans l'urgence, dans tous les cas. On anticipe autant que possible.
En général, on commence l'accueil par de l'accueil temporaire pour faire des premiers essais parce que ça peut très bien ne pas convenir à l'accueillant comme à l'accueilli. Donc, ça permet de voir aussi comment la personne s'adapte dans son nouveau domicile et comment l'accueillant aussi, l'accueillant peut du coup percevoir mieux aussi la demande en soins, les besoins quotidiens en fait que va avoir la personne.
Ok. On va se faire une petite pause musicale et puis Ricardo, tu gardes ta question au chaud.
Ah non, j'ai pas de question.
On va rester dans la thématique du logement et j'insiste un petit peu sur le droit au logement parce que notre personnage mystère a beaucoup porté le projet. Je vais certainement vous faire découvrir un petit morceau qui est pas chanté, qui est pas rappé, qui est pas slamé. Ça s'appelle SDF, les Don Troppo.
Sérieuse, débrouillée, futée, Sandrine, digne fille, soutien de famille, se donne fièrement à son devoir de femme. Sa demeure fragile, sombre débarras frauduleux, soigné, décrassé, frotté, squatté depuis février, leur sert de foyer. Sans délirante fortune, sans dépenser fantaisiste ses derniers francs, Sandrine se donne figure souriante, douce et fraîche. Scrupuleuse, déterminée, forcenée, Sandrine dans une firme scotche des formulaires sur des frigos sortant de fabrication. Souvent, délire en film, Sandrine divague, fabule. Serait drôlement friquée si demain, fatale, elle se donnait facile le soir dans les faubourgs. Sordide délire, finalement. Sonnerie, départ, foule, saga de fonctionnaires, semaine de folie, samedi, dimanche, férié. Sortie de famille, senteur de frites, saucisses de Francfort. Soudain, dans la fête, se détache frappant le sourire d'un forain. Sandrine, dépendante forcée de ses deux frères, se détourne furtive. Surgissant diable fébrile, Sergio, dit Féfé, stand des féeries, simplement dévoile sa flamme. Sandrine, décontenancée, figée, ses deux frères slalomant dans la foule, se demandent que faire. Se détourner froidement serait dommage, franchement. Sourire dessiné finement, soutenu de fossettes sensuelles, drôle de frimousse, Sandrine dévisage le forain. Se dérobant féline, sautillante derrière Féfé, ils sortent de la foire. Ces deux frères se débrouilleront facilement. Septembre déploie fragile ses derniers feuillages sanguinolents de feu. Secrètement, décembre forge sa despotique froidure. Sandrine, dévêtue, frissonne. Ses deux fesses se dressent fermes, sublimes de féminité. Son dos frémit sous les doigts fins et sensuels de Féfé. Soupir de fauve, sauvage désir fécond. Savant démon femelle se désaltérant aux fontaines de sucs délicats fusionnant. Spasme, démence, fougue, Sergio devient fou, Sandrine décolle foudroyée. Satisfaite, détendue, fatiguée, Sandrine dort, fillette. Sergio déçu, fume. Soleil dans la fenêtre, Sandrine dans le flou, Sergio disparu, fuir. Serpentant des dalles fumants, Sandrine dévale les faubourgs. Sa dépendante famille, sans doute fâchée, se demande ce qu'elle fait. Soudain, deux flics se dressent fermes, sa demeure fermée sur décret fatidique. 6, 10 fourgons se déploient figés sur deux fils. Saloperie de flicaille, souillure dégueulasse, fumier. Sandrine dégoûtée fulmine. Sermon, discours futile, Sandrine découragée, fragilisée, c'est déjà la fin. Sortie du foyer, sordidement de force, sa douce famille sera dispersée, fragmentée, sans domicile fixe, social dénominateur facile, SDF.
Donc, c'était son SDF des non-tropos, un petit texte, on va dire, très travaillé, où toutes les lettres commencent par, enfin, toutes les phrases commencent par, les mots commencent par S, D ou F dans l'ordre. Donc, je vous invite à réécouter. Vous vouliez ajouter quelque chose concernant la rencontre entre les accueillants et les familles. On en parlait un tout petit peu en hors micro. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se construit avec les familles. Comment ça se passe en concret?
C'est important à partir du moment où il y a, peut y avoir des essais, mais ça peut ne pas, deux personnes ne peuvent pas se rencontrer, en fait, ne pas s'apprécier, ne pas se dire on va se soutenir, voilà. Et avant toute chose, je pense que il y a un côté assez subjectif, l'accueillant familial comme la personne se choisissent mutuellement. Est-ce que c'est bien dit, Jennifer? Est-ce que c'est un peu ce qui se passe vous pour Jacqueline et vos autres accueillis?
Oui, après il faut que ça, enfin il faut que l'entente démarre déjà bien et qu'on, enfin qu'on sente qu'il y a un feeling déjà entre nous pour fonctionner. Après il faut aussi que ça fonctionne avec les autres accueillis, quand on en a plusieurs, et puis bah le reste de la famille après qui vit.
Est-ce que l'environnement est vraiment essentiel à l'accueil pour que la personne se construise des nouveaux repères? Bêtement, est-ce que vous avez des animaux par exemple?
Oui.
Ouais.
Après, oui, il faut que les personnes, déjà, avant, Par exemple, il y a des accueils, on peut pas parce que la personne ne veut pas être entourée d'enfants. Mmh. Ou d'animaux, que la personne a peur des chiens ou des allergies. Donc après, déjà, ça, c'est à voir avant l'accueil.
Oui.
C'est dur pour les animaux quand même.
Oui.
Dans tous les cas, ce que j'entends, et moi c'est là où je trouve que votre formule est une vraie plus-value, c'est que finalement on n'impose rien à personne et que c'est vraiment un choix de vie. Globalement, c'est plutôt en zone rurale les accueils ou c'est plutôt en milieu urbain?
Alors en général, c'est plutôt en milieu rural parce que les maisons sont souvent plus grandes et donc peuvent permettre d'accueillir 2, 3, 4 accueillis au grand maximum.
On a un micro qui nous fait des blagues.
Voilà.
Parce que celui-là, c'est désolé pour la technique.
Ça sera mieux.
Mais oui, donc pour le coup, on peut aussi bien choisir et la formule et le milieu de vie. Est-ce que, comme dans d'autres formules d'habitat alternatif, il y a des histoires de rapprochement familial où les gens sont vraiment issus du territoire et choisissent d'y rester?
Il y a des personnes qui sont effectivement du territoire de Maine-et-Loire et qui souhaitent rester dans la région, enfin dans le département. D'autres qui sont assez isolés socialement et qui peuvent venir aussi de d'autres départements et intégrer une famille d'accueil du Maine-et-Loire. Il n'y a pas de règle en fait. Enfin voilà, il y a des personnes qui vivaient par exemple sur Angers même et qui souhaitaient rester sur Angers même près de leur commerce, près de voilà, mais en se rendant compte finalement qu'ils ne pouvaient plus se déplacer dans ces commerces, etc., acceptent d'aller se mettre en milieu rural chez les accueillants. Et finalement, s'y plaisent beaucoup mieux.
On va faire une petite pause sur l'accueil. On va se diriger. Non, Jean-Jacques.
Je vais faire ma chronique UFC que choisir parce que je vais remplacer ma chronique pub par ma chronique musicale.
D'accord. Bon, eh bien, donc, dans ce cas-là, Jean-Jacques, quand tu auras fini de casser tous les micros, on t'écoute, c'est l'heure de ta chronique.
C'est une chronique environnement. Suite de la fin des plastiques. La loi anti-gaspillage de 2020 a programmé la fin progressive du plastique dans plusieurs domaines de l'économie. Après les emballages, c'est au tour de la vaisselle et des récipients jetables. D'autres mesures encore visent à accroître le recyclage. En 2023, plusieurs nouvelles mesures entrent en vigueur pour lutter contre le gaspillage et le recours massif au plastique jetable. La restauration sur place doit éliminer la vaisselle à usage unique dans tout établissement offrant plus de 20 couverts. Les fabricants de cosmétiques doivent mentionner sur leur emballage les composants en microplastique dans leurs produits rincés, savon et shampoing principalement. Ils sont également tenus d'expliquer aux utilisateurs les modalités d'emploi pour éviter les rejets polluants dans l'environnement. L'application Quel produit de que choisir permet d'évaluer les risques sanitaires et environnementaux des cosmétiques et nettoyants ménagers. Les emballages en plastique pour les fruits et légumes vont disparaître dans la plupart des cas, mais le décret d'application doit être révisé par le gouvernement. Les tickets de caisse ne seront plus imprimés que sur demande du client. Mais les alternatives numériques sont aussi énergivores et les conditions de garantie doivent être fournies systématiquement. Le recyclage devrait également progresser avec des obligations de tri à la source pour les industriels, au moins pour ceux qui produisent de gros volumes de déchets organiques. Le compostage sera obligatoire pour les collectivités et facilité pour les particuliers.
Merci Jean-Jacques, c'est notre écolo de la bande. On va refaire une nouvelle pause musicale. Je vous parlais tout à l'heure du personnage mystère. Donc, pour information, c'était un chercheur, il était biologiste, il était généticien, il était ingénieur, philosophe, essayiste, et il a été donc président d'honneur du droit au logement, mais de bien d'autres causes également. Il s'est battu contre le nucléaire, et c'est ce qui m'amène au nouvel indice musical avec Boris Vian, qui avait interprété Jacqueline. Tu la connais celle-là? La Java des bombes nucléaires est interprétée par Serge Reggiani. On l'écoute tout de suite et on en reparle tout de suite après.
Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe à, je sais pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au verre ficelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui nous fait comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagnotte était aussi pratique. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les enfermit en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme est consciente, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement.
C'était donc Serge Reggiani avec la Java des bombes atomiques, une chanson de Boris Vian qui date de 1962.
Ah
alors,
non.
Ah si,
la chanson. Boris Vian était mort avant.
Ah bah là, la chanson de 1962.
Ah, l'interprétation.
Ah bah oui. Bon.
Ah ouais, d'accord. Oh,
bah oui, bah, je disais justement.
Voilà, je me fais tacler moi.
Boris Vian l'avait chanté avant.
La chanson.
Donc, on a déjà des pistes sur l'invité mystère. Allez, un petit prénom en aide. On essaye. Qui a un prénom à proposer?
On avait une piste, mais...
Non, on sèche.
Je pensais à Jacques Mounou, mais ça va.
Eh ben non. Bon, alors moi, je vous donne un indice, c'est Albert. Voilà.
Ah si, on l'a trouvé tout à l'heure.
C'est pas dit. C'est pas Albert Einstein, non.
Et le nom commence par un J.
Par un J.
C'est ça, ben, voilà.
Bon, on l'a trouvé.
Quand je vous disais qu'ils étaient forts, hein, franchement... Bravo à vous. Donc, pour revenir à l'accueil familial, Jacqueline, 85 ans, qui cohabite donc avec Jennifer, ses deux enfants, un chien, un chat, je ne sais quoi d'autre encore. Oh là. Est-ce que effectivement la famille reste présente dans ces solutions d'accueil? Quels sont les droits et les devoirs des familles? La famille est absente. Il n'y a pas de famille?
Si, pour Jacqueline, elle a son fils, sa fille, ses petits-enfants. Donc après, la famille vient quand elle veut venir.
D'accord.
La voir.
Donc après, il faut un petit peu d'organisation et j'imagine qu'il y a des limites à fixer pour que la famille ne soit pas trop envahissante aussi chez soi.
Bah après, moi personnellement, je n'ai pas spécialement de limites à part le matin. Parce qu'on, voilà, on fait le ménage, les toilettes, voilà, le temps. Enfin, le matin, le temps passe assez vite, on arrive très vite à midi.
D'accord.
Donc après, moi, le reste de la journée, il n'y a pas de. Après, je m'adapte. Je sais que pour Jacqueline, par exemple, pour son anniversaire, son fils m'avait demandé s'il pouvait venir à midi et demi parce que sa femme travaillait. Et il voulait venir ce jour-là, le jour de son anniversaire. Donc du coup, j'avais reculé le repas un petit peu. Et on avait pris le dessert en fonction du coup de son arrivée.
Bon, c'est vraiment de l'accueil à la carte au final.
Après oui, chaque famille d'accueil est différente, mais après chaque accueilli est différent. La famille, les familles sont différentes, donc après faut s'adapter, faut que chacun s'adapte en fonction.
Non, mais au final, comme dans toute relation humaine, familiale, voilà, on s'adapte. Et, Il y a toujours des compromis, quoi. Pardon.
Moi, j'ai une question d'ordre plus général. C'est une démarche, si j'ai bien compris, qui est portée par le conseil départemental. Enfin, financièrement ou au niveau...
Non, pas financièrement. Non, en fait, le département, enfin nous, au travers de l'équipe, on est en charge de l'agrément, puisque pour devenir accueillant familial social, il faut faire valider un agrément. Donc nous, on est une équipe de 3 professionnels et on vient au moment de la demande d'un agrément, on vient donner nos avis et du coup il y a un passage, un élu décide de l'agrément et il est attribué pour 5 ans. Et dans ce cadre-là, le département et toute notre équipe, on accompagne l'accueillant et les personnes qui sont accueillies, en fait, pour que tout le monde puisse aller au mieux et trouve du bien-être, en fait. Et après, l'accueillant familial social n'est pas salarié du département. Entre l'accueilli et l'accueillant, il y a un contrat qui est signé. Donc, en fait, la personne accueillie devient l'employeur de l'accueillant familial. Donc, c'est un contrat de gré à gré, un contrat de droit commun.
D'accord.
Voilà.
Et sinon, qu'est-ce qui limite, en fait, le développement? Ça a été évalué, la plus-value, enfin, ce que ça apporte pour la personne en question. Oui, ça a été évalué, cette démarche-là, elle est positive, elle se développe. Qu'est-ce qui peut limiter son développement ou au contraire accélérer son développement à cette démarche?
Déjà de venir vous dire ce que c'est que ce métier-là, parce qu'il n'est pas connu, il n'est pas tellement valorisé. Et puis après, c'est vrai que c'est un engagement, ce métier. Travailler à son domicile, c'est particulier. Voilà, donc ça veut dire que c'est aussi du 24 heures sur 24. Mmh. Alors, il y a la possibilité de prendre des congés, bien sûr, il y a des droits aux congés. Mais ça nécessite une organisation, une continuité d'accueil. Et tout le monde n'est pas prêt à faire ce type de métier. Mmh. C'est vraiment un choix de vie.
Ça existe dans toute la France,
Ça existe dans toute la France, oui.
Et mon petit doigt m'a dit que le département souhaitait quand même développer cette formule d'habitat. Donc, à qui doit-on s'adresser si on a l'idée de porter ce projet professionnel?
Alors, vous pouvez vous adresser au conseil départemental.
Il faut donner les coordonnées, il n'y a pas de souci.
On va donner les coordonnées à la fin de l'émission. Donc, il faut s'adresser au conseil départemental et nous, on prend contact avec vous par téléphone afin d'évaluer un petit peu votre projet. On peut venir à votre domicile pour évaluer aussi votre capacité d'hébergement, votre type de logement, ce que vous pourriez mettre en place. Il faut savoir aussi que l'accueil familial, il y a 3 sortes de types d'accueil, en fait, dire. L'accueil permanent, où c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a l'accueil temporaire, qui est donc, comme on dit, temporaire. Ça peut être une semaine par-ci, un week-end par-là, voilà. Et l'accueil de jour, depuis 2 ans aussi, qui a été mis en place, où là, c'est que de l'accueil en journée. Donc, ça ouvre de nouvelles portes aussi pour de futurs accueillants.
Et là, c'est une solution bien utile pour avoir, on va dire, une solution de répit immédiate pour les aidants. J'imagine que pour le coup, les procédures de mise en relation sont peut-être pas les mêmes pour les différents accueils.
Si. On est centralisé, une équipe où on s'occupe de tous les accueillants et de toutes les sortes d'accueil, en fait, sur les départements. Donc on va pouvoir vous donner. Notre contact mail, hein, du coup, c'est l'adresse, c'est contact.afs.
Accueil familial social.
Voilà, @men-6-loire.fr. Je le redis ou pas?
Ouais. Oui.
Alors, contact.afs, @men-6-loire.fr.
Ok, un numéro de téléphone.
Numéro de téléphone au 02 41 81 46 64.
Bon, on va faire travailler la mémoire de Josiane. C'est combien le numéro de téléphone?
Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait un numéro de téléphone.
Josiane est fâchée avec les mails.
Non. Un petit complément, enfin, je trouve que c'est une très bonne alternative. Bon, même en tant que professionnel, je ne connaissais pas, mais on sait qu'il y a beaucoup de solutions de répit, mais qui sont restent quand même de l'institutionnel ou de l'associatif. Mais à la fois, c'est une solution humaine, donc familiale, comme on disait, la rencontre de personnes. Mais aussi, je trouve que ça offre aussi une alternative à l'accueil. Bon, ça ne se substitue pas toujours, mais ça offre une alternative où on sait que les places sont de plus en plus rares et de plus en plus coûteuses. Malheureusement, un peu moins depuis le Covid, le nombre de décès qu'il y a eu dans les EHPAD, mais habituellement, c'est de plus en plus coûteux et de plus en plus rare. Donc, je trouve que ça reste une très, très bonne, belle initiative.
Et puis, j'ai eu connaissance de personnes qui ont vécu ces situations-là. Et c'est vrai que elles se retrouvent dans une vraie famille, avec des enfants, avec des comme ça, et elle noue des liens affectifs très très importants. C'est très réconfortant pour eux, quoi.
Je crois qu'il y a beaucoup de personnes malades qui sont pas disposées à aller en établissement, et il y a beaucoup d'aidants aussi pour qui c'est pénible, j'ai envie de dire, de choisir cette solution là, mais c'est souvent salvateur, malheureusement. Donc je pense qu'effectivement aller dans un environnement familial, pour le coup, c'est sûrement plus acceptable pour beaucoup de personnes.
Oui, ça peut être complémentaire à autre chose, en fonction de la personne, une ouverture, un temps de pause ou un temps de cocooning. Voilà, ça dépend de qui on se place, quoi.
Ce qui est sûr, c'est que les besoins d'aidants, nous, on les entend pratiquement au quotidien, et le répit que ça offre, c'est toujours bon à prendre. Donc, si certains des aidants qui nous écoutent n'avaient pas envisagé cette solution-là, qu'ils s'adressent à vous, qu'ils s'adressent à nous pour qu'on les réoriente, mais il y a matière à au moins creuser la question, quoi. On va revenir sur notre personnage mystère. Donc, on va l'écouter à la place de la quatrième chanson. J'avais un extrait d'une interview de ce monsieur. Marc, tu avais trouvé qui c'était?
Marc et puis Jean-Jacques surtout aussi.
Ils sont forts.
Rendons à César ce qui est à César. On en a parlé, oui, effectivement, Albert Jacquard.
Oui.
Et d'ailleurs, j'ai une petite phrase de lui que j'ai retenue. Qui dans une interview aussi que j'avais écouté, qui disait: l'important c'est pas d'aller vite, mais dans la bonne direction.
C'est vrai. Ça aide déjà. Après, souvent le chemin il est pas droit, c'est ça le problème. Hein.
Mais par contre, si on va pas dans la bonne direction, ben on peut aller vite, mais on s'éloigne de l'objectif.
Ça dépend de combien de grammes t'as dans le sang, avec modération bien sûr.
Je vous propose d'écouter un petit peu l'interview et puis je vous laisse réagir tout de suite après.
Il faut être violent contre la compétition, il faut être violent contre la violence. De même que la seule guerre bonne, nous dit l'abbé Pierre, c'est la guerre contre la misère, eh bien la seule violence, c'est la violence contre la violence. Car au fond, être compétitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire vouloir passer devant un autre.
Mais on apprend que ça à l'école.
Ben on a bien tort. Non, c'est pas ça qu'on apprenait autrefois. Et quels sont les grands personnages qui ont fait avancer la science, qui ont fait avancer la pensée humaine? Ils n'étaient pas compétitifs. Est-ce qu'Einstein était compétitif? Absolument pas. Il se battait contre personne. Il n'avait pas envie d'arriver le premier. Il avait envie de comprendre des choses qu'il n'arrivait pas à comprendre et que les autres croyaient avoir compris, mais il avait bien tort. Eh bien, lui, il se battait contre lui-même. La compétition, mais il faut y réfléchir un peu. Chaque fois que l'on accepte la compétition, on accepte de mépriser quelqu'un, de le détruire, et on est en train de se détruire soi-même, puisque un beau jour on perdra. C'est pas sérieux, ni pour un État, ni pour une collectivité quelconque, ni pour un individu. Être compétitif, ça ne peut pas être le bon moteur. Il y a d'autres moteurs dans la vie. Et malheureusement, on nous raconte aussi que la sélection naturelle veut que les meilleurs gagnent. C'est faux. C'est jamais le meilleur qui gagne. On gagne pas. Simplement, il faut survivre, il faut avancer, il faut être meilleur que soi-même. C'est complètement différent. Mais quand est-ce qu'on l'aura compris? Je crois que, actuellement, le drame de la Terre entière, c'est que la société qui domine, la nôtre, a pris comme moteur la compétition. Mais il faut y réfléchir. C'est forcément un poison.
Mais je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que la rentabilité n'est quand même pas obligatoire pour faire vivre les milliards d'hommes qui sont sur cette planète et qui vont doubler d'ici combien de temps?
Ah, ils vont doubler d'ici 80 ans, oui. On sera 10 milliards. Mais si on essaie d'organiser la Terre en fonction de la rentabilité, on est fichu. Car en fait, les activités les plus nécessaires à l'homme, ce sont celles qui ne sont pas rentables. Ça n'est pas rentable de guérir un vieillard. Ça n'est pas rentable d'éduquer quelqu'un. dès qu'on met le concept de rentabilité là-dedans, on aboutit à la barbarie. Et au fond, c'est parce qu'on a parlé de rentabilité à propos du sang qu'on a obtenu ce que vous savez, le fameux scandale du sang. Il faut absolument sortir l'essentiel des activités humaines de ce domaine où l'économie règne, la rentabilité règne. Non, ce qui est important dans la vie, c'est ce qui n'est pas rentable.
Dites-moi, vous devez être horriblement pessimiste, plus que nous qui voyez la réalité, vous voyez la réalité plus vite et mieux que nous.
Non, je ne suis pas pessimiste. Être pessimiste, ça voudrait dire que c'est foutu. Ça peut l'être. Il est possible que ça soit. Mais ça dépend encore de nous. Je pense qu'il n'est pas tout à fait trop tard, mais il faut complètement changer nos objectifs. L'objectif de compétition, l'objectif de rentabilité, ça, c'est la catastrophe. Par contre, vivre, c'est ça qu'ils font, ces gens. Et c'est ça que veulent les enfants, c'est ça que veulent les jeunes. Quand on leur a parlé de diplôme, de CIP et de tout le reste, au fond, ils s'en foutaient. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une vie qui s'ouvre, et c'est possible. Au contraire, on a la chance, au fond, que le monde de demain soit nécessairement différent du monde d'aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, il sera différent. Alors, ou on le subit, ou on le dirige.
Ah, si toutes les intelligences qui gouvernent étaient comme vous, professeur Jacquard.
C'est notre devoir, oui.
Donc c'était Albert Jacquard qui nous donnait une leçon de vie et qui nous parlait de la rentabilité si chère à Josiane. Effectivement, ce personnage, Albert Jacquard, il apportait de multiples idées. On a parlé du droit au logement, on a parlé de partage des connaissances, puisqu'il a aussi participé beaucoup à l'élaboration de logiciels libres. Et donc, effectivement, la rentabilité, il trouvait que c'était pas toujours le bon moteur pour partager et créer de la richesse, finalement. Faut-il encore que la richesse soit un minimum partagée? Et vous disiez effectivement qu'il avait aussi énormément travaillé sur l'inclusion.
L'inclusion, oui, des personnes handicapées, ce qui fait vraiment penser à la notion d'accueil familial. On est vraiment sur des moments de partage en famille, comme tous, des moments de partage d'activités extérieures avec tous. C'est le principe de l'accueil familial.
Bon. Et puis je me suis aussi fait tacler parce que j'ai pas donné les bons indices tout à l'heure, donc j'ai fantasmé que Monsieur Jacquard était né le même jour que moi, mais non, il n'en est rien. Il est né 3 mois plus tard que le 23 septembre, à savoir le 23 décembre.
Pas la même année, je pense.
Bon, j'ai pas le même collier encore que lui, mais... Non, effectivement, le 23 décembre 1925, et il est décédé, si je dis pas de bêtises, en 2013.
En septembre.
Vous me corrigez ?
En septembre,
voilà.
Cette fois, oui.
Bon. Marc, toi, ça t'évoquait des choses, Albert Jacquard.
Ah oui, là, je rebondissais sur le propos là qui vient de passer, c'est-à-dire que derrière ce mot rentabilité, il y a aussi l'idée de gérer l'éducation, qu'est-ce qu'il disait, gérer comme une entreprise ou même l'hôpital. On voit les conséquences que ça a. Et plus encore, je trouve important dans sa vision, c'est cette vision de la place de la jeunesse par rapport aux enjeux du moment. Et c'est vrai que je pense que les jeunes, c'est eux qui vont avoir la partie la plus importante à jouer, bien sûr, par rapport à leur avenir et à l'avenir de la planète, et auquel lui il était très sensible, parce qu'il a notamment s'est engagé par rapport notamment au nucléaire, hein, ça a été évoqué tout à l'heure. Mais voilà, et je pense aussi que ça rejoint aussi la vision qu'ont les jeunes ou les moins jeunes actuellement du travail dans la vie des personnes. Et cette recherche d'un travail qui a du sens, et je pense que maintenant l'un des sens les plus importants qui est devant nous, c'est le sens de l'avenir de la planète, au sens large du terme, que faire en sorte que la planète soit encore habitable pour l'être humain, parce que c'est ça finalement qui est en jeu. La planète, elle continuera à tourner, mais c'est les conditions de vie sur la Terre qui sera pour les êtres humains qui sera peut-être différentes. Et donc là, je pense que il y a quelque chose de très fort à jouer, et Albert Jacquard fait partie de ces personnes qui avaient cette vision.
Et on disait tout à l'heure, effectivement, je pense qu'en vieillissant, on s'attache beaucoup plus à l'essentiel. Et donc, la rentabilité que Jacquard a voulu dénoncer, il l'a peut-être exploité plus jeune quand il était scientifique, parce que effectivement, il était dans un système. J'ose espérer qu'on s'en détache et qu'on arrive à se faire sa propre vie en vieillissant.
Alors, il n'y a pas que la vieillesse hein, qui rend les choses comme ça, parce que je trouve, moi, qu'avec la crise du Covid, beaucoup de jeunes, de gens qui étaient dans des villes avec des situations même importantes, ont tout laissé pour aller trouver des conditions vraiment de vie beaucoup plus intéressantes que d'être agent d'assurance, patati patata. hein, j'ai rien contre les assurances, mais enfin, voilà.
Un petit peu quand même.
Ben, j'y suis passée, moi, dans les assurances. Non, mais enfin, je trouve ça extraordinaire quand tu entends des gens qui ont laissé des situations pour aller s'installer dans une ferme, produire des choses et tout. Je trouve que de ce côté-là, le Covid a eu un aspect positif.
Bah, c'est vrai qu'il faut c'est trouver du sens à sa vie, trouver du sens à tout ce qu'on fait. Mais de l'autre côté aussi, tout ce qui est bureaucratique, il en faut quand même. Hein, parce qu'il faut faire tourner quand même le pays dans ce sens-là aussi. Donc faut ne lâchez pas tous, sinon demain on n'a plus personne à la défense.
J'ose espérer qu'on a un petit peu tous un petit peu d'utilité quand même au final. Quand
bah, oui, à son échelle.
Gras de papier que nous sommes parfois, on peut s'avérer utile. Bon, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitiez rajouter concernant l'accueil familial social? On a parlé des modalités d'accueil, on a parlé des modalités pour rentrer en contact, en rappelant bien effectivement qu'il faut aller peut-être sur l'accueil familial social. Hein, c'est une dénomination qui permettra plus facilement de retrouver sur les moteurs de recherche là où on cherche.
Donc sur le site du Conseil départemental de Maine-et-Loire, dans le moteur de recherche, il faut taper accueil familial social et là vous aurez les informations autant sur le métier que pour pouvoir rentrer dans le dispositif. Et en même temps, vous aurez également les numéros de téléphone, les coordonnées, les mails, voilà.
On peut peut-être donner le numéro de téléphone pour obtenir la liste.
02 41 81 46 64.
Bon, ok. Et effectivement, si vous avez du mal à retrouver ces informations-là, adressez-vous à la Croix-Rouge, à France Alzheimer, à l'UFC Que Choisir, à France Bénévolat et à Josiane.
Il me fait presque bouffer le micro, là.
Non, parce que... Si tu pouvais enlever tes dents du micro.
Alors, éventuellement. Bon. Non, parce que je n'ai sans doute pas retenu. Vous êtes salarié des personnes que vous hébergez.
Il y a un contrat de gré à gré, voilà. Si j'ai bien retenu.
Et ça permet quand même à ces personnes-là de toucher les aides sociales comme si elles étaient dans leur propre famille.
Exactement. De bénéficier d'un plan auprès de la MDPH, qui soit plutôt un plan auprès des personnes handicapées, donc on appelle PCH, c'est un peu technique là, mais ou le plan à part pour les personnes âgées, voilà.
Et d'ailleurs, dans ce que payent les personnes, il y a une part de loyer, et donc elles peuvent avoir le droit aux allocations logement, aux APL.
Oui, tout à fait.
Bon. Donc c'est un accompagnement, si je comprends bien, de qualité à moindre coût. Par rapport à l'offre commerciale qu'on peut voir chez certaines chaînes.
Moi, je retiens surtout le côté humain donc, de cet accompagnement. Je pense que humain et familial qui prend le pas, quel que soit, même si on se retrouve dans des... j'imagine, même si c'était, par exemple, à même coup, j'allais dire, je cherchais mes mots. Mais c'est le côté humain et voilà. Et peut-être individualisé aussi.
Oui, le côté ajustement.
On a plus de temps d'accompagner, d'être... Oui,
Jennifer, elle est pudique. Hein, mais elle a pour habitude de dire que sa valeur principale, c'est la notion d'empathie. Hein, que son souhait, c'est la rencontre avec la personne et vraiment d'être dans ce soutien-là. Hein.
Et alors, j'ai une question très technique, mais j'ai des convictions et j'ai pas de preuves, mais la maladie, la d'Alzheimer, comme vous recevez, c'est Jacqueline, hein, c'est ça? Est-ce qu'elle évolue moins vite que dans un autre environnement ou pas? J'ai la conviction que quand il y a l'environnement favorable, les personnes restent plus longtemps avec nous. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez dans l'accueil familial social? Est-ce que vous contenez et vous savez dire si c'est une bonne évolution ou une moins bonne évolution?
Bah, moi, personnellement, je trouve que ça évolue moins vite. Après, quand ils sont en établissement, ils deviennent agressifs assez rapidement parce qu'ils sont pas bousculés trop, mais un petit peu quand même. Enfin, il y a des moments où, quand faut aller à la douche, par exemple, une personne Alzheimer, elle va pas être dans l'optique là tout de suite en claquant des doigts, bing, ça y est, c'est la douche. Des fois, ça va mettre 20 minutes, ou des fois, ça va pas être possible sur l'instant. Il faut passer à autre chose. En établissement, bah, c'est au moment où la personne, elle est là, qu'il faut prendre la douche. Après, étant en famille d'accueil, si la douche c'est pas possible au moment où on y était parti, on passe à autre chose et on y retourne une heure après ou bah des fois où c'est le soir ou après. Je trouve qu'ils sont plus posés et plus au calme quand ils sont pris en charge par une seule personne dans un endroit où ils sont plus coucounés.
Oui, peut-être, mais ça dépend des établissements dans lesquels ils sont. Oui. Moi, je vois mon mari est à Chantecé dans une unité spéciale Alzheimer, et là, du coup, le personnel se fait à la demande de la personne et ne les bouscule en rien. Quand ils ne veulent pas, on les laisse tranquilles, on revient plus tard. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des établissements.
Oui. Après, oui, c'est parce que là, c'est un...
C'est une unité
spécialisée. Donc, quand après, ils sont tous mélangés avec des personnes âgées un peu plus jeunes, ça va moins bien dans le bon sens.
Mais même quand ils sont dans leur famille, parce que l'aidant peut être agacé, énervé, et donc va bousculer des choses. Ou vous faites venir une infirmière de l'extérieur pour faire la toilette ou autre, elle a un horaire à respecter et il faut y aller, point final. Donc, vous, la chance que vous avez, enfin, que vous avez choisi, hein, c'est de vous adapter à la personne. Et ça, c'est très important, me semble-t-il.
Alors, pour nuancer, c'est peut-être mon côté, on va pas parler sur l'impact sur l'évolution, parce que ça, c'est, bien évidemment, faudrait le vérifier. Voilà, faudrait faire des recherches dans ce sens. Mais dans ce que dit Jennifer, moi, je trouve surtout l'impact sur le comportement, sur les troubles du comportement, sur l'apaisement, le stress, voilà. Et aussi, d'où on parlait du côté vraiment individualisé, en EHPAD, il peut y avoir des changements où on sait que dans ces pathologies, les habitudes ont quand même un impact là-dessus. Donc, alors que dans une usine, ça bouge beaucoup, ça peut changer, même si voilà. Et là, on a un côté un petit peu stable. Voilà.
J'entends qu'on vit au rythme de la personne et que effectivement les repères sont moins nombreux, donc plus stables certainement. Et bon, ça fait plaisir à entendre de temps en temps des bonnes formules. Moi, j'aime bien personnellement. On va écouter un dernier titre pour cette émission qui a été choisi cette semaine par Ricardo. Donc voilà, je te laisse lancer ton morceau.
Non, je me rappelle que tu me l'as demandé et je suis allé dans une playlist et j'étais lancé les trois premiers morceaux qui apparaissaient. Et je crois que tu as choisi Terry Boys. Alors, ce que j'adore, qui a une histoire de vie tragique, mais c'est surtout la mélodie qui m'importe, mais pas les mots. Bon. Tu verras pourquoi pas les mots.
Bon, on écoute Terry Boys, je serai là et on se retrouve tout de suite après.
Tes erreurs et tes peurs, je les efface. Et chaque que faut pas que tu le feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis, tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours soient sûrs, tes amis sincères. Domaine où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien.
Donc c'était Terry Moïse, choisi par Ricardo cette semaine, qui n'avait pas d'annonce à nous faire. Voilà, il n'a pas encore choisi d'être papa.
Non, non, c'est ce que je disais, c'était juste la mélodie qui m'importe. Bon. J'adore.
Jacqueline, tu avais une information à nous communiquer pour les jours à venir.
Oui, pour être un petit peu plus joyeux. j'ai assisté à une comédie de boulevard par les Bouillards de Cornet, qui représente une journée théâtrale, Les Belles Sœurs. C'est assez amusant, réservé quand même à un public adulte, parce qu'il y a quand même des oui. petites phrases un petit peu olé olé, dirons-nous. Donc les prochaines...
Donc on revient à l'essentiel de Monsieur Jacquard tout à l'heure.
On peut réserver par téléphone ou sur le site internet. Je vous donne le téléphone, c'est le 07 49 01 11 81 ou alors sur le site internet www.lesbouillardscornet.fr. Les prochaines représentations seront le vendredi 10 mars à 20h30, le samedi 11 mars à 20h30 et la dernière représentation le 12 mars à 15h. Vous vous amuserez.
Merci Jacqueline. Bon, et donc tu recommandes chaudement ce spectacle. Olé, olé, si j'ai bien compris.
Un petit peu olé, mais enfin, ça reste...
Jennifer, que vous voulez redire une dernière chose, une tendance du moment ?
Qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dans le métier, que ça nous apporte énormément de choses. Ça apporte aussi aux personnes qu'on accueille, mais à nous, ça nous apporte aussi beaucoup. Donc, il ne faut pas hésiter à devenir accueillants familiaux.
Bon. Moi, en vous rencontrant, Jennifer, le sentiment que vous me laissez, c'est que vous avez trouvé le juste équilibre entre votre métier et votre manière d'être. C'est pas mal, hein. Tout le monde n'y arrive pas.
Oui, bravo. Ouais.
Merci à vous d'être venu témoigner. Je vous dis dans 15 jours pour une nouvelle émission de Il est l'heure, Monseigneur, sur Radio G 101.5. À bientôt.
Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes.
Radio G. www.radio-g.fr